Et ce matin, j'aimerais vous apporter de la sagesse biblique. Je veux vous donner, en fait, ce matin, j'ai révisé mes notes tôt ce matin avant de venir ici et je me suis auto-boosté. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Je lisais mes notes, je révisais mes notes et je me suis comme fortifié moi-même, pas parce que à cause de mes propres notes, mais à cause du contenu de la parole de Dieu. La parole de Dieu est une force incroyable, démesurée, qui nous permet de nous tenir debout et de faire des choses formidables. Et ce matin, j'étais fortifié par l'idée de placer dans notre vie et d'amener, aujourd'hui, c'était ça en fait ma pensée, c'est que je m'en viens à Drummondville aujourd'hui et je vais aider des gens à placer des fondements pour que Dieu puisse bâtir encore plus dans notre vie. Et un, vous avez le droit de le dire amen en passant, et un des fondements que Dieu nous a donné dans sa parole, un fondement extraordinaire, c'est la sagesse de Dieu. Et j'aimerais déclarer ce matin, de toutes mes forces, que c'est la volonté de Dieu qu'on triomphe. Dans ma tête, il était pour avoir des plus grands résultats que ça. C'est la volonté de Dieu que nous puissions triompher. Et je vais lire pour vous Proverbes chapitre 3, on va lire quelques versets. Est-ce qu'il y a deux ou trois personnes qui aiment la parole de Dieu ici? Je vais lire un passage et juste la lecture de ce passage ce matin va créer quelque chose de fort dans nos cœurs. Proverbes chapitre 3, verset 13, il dit « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. » Wow! En fait, on vient de lire dans ce passage la plupart des aspirations de la plupart des gens dans ce monde et tout ça est contenu dans la sagesse de Dieu, dans la richesse de la sagesse de Dieu. Alors si on bâtit notre vie sur les fondements de la sagesse de Dieu, eh bien, c'est ce qui nous attend. Et c'est pour ça, ce matin, je veux activer dans cette salle ce que j'appelle des chercheurs d'or. C'est-à-dire que dans Proverbes chapitre 4, au verset 7, ça dit « Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse avec tout ce que tu possèdes. Acquiert l'intelligence. » J'appelle des investisseurs ce matin dans cette salle des chercheurs d'or. Quand j'étais enfant, j'ai lu, peut-être qu'il y a des gens ici qui l'ont déjà lu, j'ai lu un livre, en fait, ils ont même fait un film, je crois, avec ça. C'est un monsieur, en 1883, qui a écrit un livre, Robert Louis Stevenson, il a écrit un livre qui s'appelle « L'île au trésor ». Et je l'ai lu même à plusieurs reprises quand j'étais enfant. Et en fait, l'histoire est simple, c'est un jeune homme qui vient en contact avec un vieux loup de mer qui lui donne une carte, un accès à une carte qui l'amène à une île où il y a un trésor. Et le problème, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui entendent parler de ce projet. Et donc, c'est une histoire de pirates et tout ça, mais ils partent à la recherche de cette île au péril de leur vie avec des dangers et tout ce que tu peux imaginer. Pourquoi? Parce qu'ils veulent trouver le trésor de cette île et rien ne peut les arrêter. Eh bien, je veux activer dans cette salle ce matin ce même esprit de partir à la chasse au trésor, mais le trésor, c'est la sagesse de Dieu. Et cette année 2024 va être une année où on va poser des fondements afin d'établir dans notre vie la sagesse de Dieu et préparez-vous à voir dans votre vie des triomphes absolument extraordinaires. Vous avez le droit de dire amen.
Amen.
Le premier fondement, ce matin, que je vais regarder avec vous, c'est « Prenez la route qui conduit vers le meilleur. » Combien dans cette salle ce matin aimerait ça que ça soit toujours meilleur? Combien aimerait que l'année prochaine, ça soit encore meilleur que cette année, puis que cette année, ce soit meilleur que l'année passée?
Amen.
Eh bien, je vous annonce ce matin que c'est possible. Il y a ce qu'on appelle, je l'appelle la route qui conduit vers le meilleur. Souvent, dans la parole de Dieu, on parle d'une vie de gloire en gloire. Et en fait, dans notre vie, ça devrait toujours aller vers le meilleur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de combat, qu'il n'y aura pas d'épreuves et de difficultés au milieu de cette route, mais cette route, avec le principe qu'on va regarder ensemble ce matin, ça nous amène de gloire en gloire. Premièrement, on lit dans Proverbes chapitre 4, verset 18, ça dit « Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. » C'est-à-dire que c'est une route qui fait en sorte que plus tu avances sur cette route, plus la lumière devient croissante, plus c'est bon. Et très souvent, il y a des gens peut-être qui sont ici ce matin, qu'en ce moment, c'est vraiment moins bon qu'avant. Et j'entends, vous savez, quand on prêche, on peut entendre les cœurs et les pensées des gens. Et moi, ça, c'est des fois que, je ne sais pas en tant que prédicateur, pasteur Seb, si tu vis ça des fois, mais des fois, tu prêches quelque chose, puis tu déclares quelque chose, mais tu sens que dans la tête ou dans les cœurs des personnes qui disent « Ouais, mais c'est vraiment pas moi ça ici ce matin. » Et peut-être que vous n'êtes pas dans cet état d'esprit, mais gloire à Dieu, parce qu'un état d'esprit, ça peut changer. Et dans mon passé, j'ai fait beaucoup de randonnées en montagne, en haute montagne, du camping hivernal. J'ai déjà dormi à moins 25 degrés dehors, tout ça. C'est trop long à vous raconter, il y a des gens qui disent « Mais pourquoi tu fais ces affaires-là? » C'est une autre histoire, un autre sujet, une autre fois. Mais tout ça pour vous dire que je me souviens d'une fois où on a dormi dehors, en plein hiver, et il y avait une tempête épouvantable durant la nuit, mais les prévisions météo annonçaient que demain, il va faire beau. Donc, on est quelque part dans la montagne, il fait un froid glacial, c'est le blizzard, il y a des vents de 100 km/h. Et quand on s'est levé le matin, est-ce que je peux vous dire que j'étais pas trop enthousiaste à monter jusqu'en haut de la montagne. Il faisait une noirceur, il y avait un vent, il y avait le blizzard. Et là, j'ai dit avec le gars avec qui je suis allé, j'ai dit, penses-tu qu'on devrait redescendre? Il dit, non, les prévisions météo, ça va se dégager, il va faire beau. Mais là, quand tu regardes, c'est vraiment pas beau. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, peut-être qu'en ce moment, ce que tu regardes dans ta vie, en ce moment, c'est vraiment pas beau, mais il y a autre chose. Et donc, on est parti là-dedans, ça prend tout ton courage, tu te dis, qu'est-ce qu'on fait là, tout ça. Mais plus on avançait et plus le temps avançait, plus le ciel commence à se dégager. Le vent tombe, la poudrerie, ça devient une petite neige, de moins en moins de neige. Tout à coup, le soleil se lève et le midi, on est en haut de la montagne, nos manteaux sont enlevés, il y a un ciel bleu incroyable, il fait soleil, il fait tellement chaud qu'on enlève nos manteaux, on mange puis on se met de la crème de bronzage. Combien sont d'accord avec moi pour dire qu'il y a eu un changement d'atmosphère? Eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans la vie du sentier, de celui qui marche sur le sentier du juste. Indépendamment de ce qui se passe en ce moment, eh bien, les circonstances peuvent changer et Dieu peut t'amener de gloire en gloire. Peut-être qu'on a commencé 2024 dans une galère, mais tu peux finir 2024 dans la gloire au nom de Jésus. Et si tu places ton fondement en disant, je choisis de marcher sur le sentier des justes, eh bien, c'est exactement, le soleil va aller en croissant jusqu'au milieu du jour, ça va aller de mieux en mieux. Et le problème, c'est que j'ai vu beaucoup de gens, au fil des ans, dans mes voyages, dans les églises, tout ça, qu'il y a des gens qu'aujourd'hui, c'est tellement pire, tellement moins bon qu'il y a 10 ans. La vie a dégénéré. Je vois ça même dans des églises. Il y a des églises où je suis allé prêcher il y a 10 ans, que tu vas prêcher aujourd'hui, tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette église? Il y a eu une dévastation, il y a eu de la division, il y a eu toutes sortes d'affaires et tu sens une lourdeur spirituelle. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ce n'est pas le plan de Dieu que nos vies soient comme ça. Il peut y avoir, dans les derniers 10 ans, il peut y avoir eu des difficultés, des batailles, des épreuves graves. Mais quand tu marches sur le sentier des justes, il y a une intervention surnaturelle du Dieu de l'univers qui fait en sorte que malgré les épreuves, il intervient. Malgré les obstacles, il fait tomber les murs. Malgré l'opposition, il nous donne des victoires. Et tout à coup, sur ce sentier, au début, c'est dur, au début, c'est compliqué. Et d'ailleurs, en passant, il y a des gens qui, aujourd'hui, parfois, préfèrent prendre le sentier qui a l'air facile, mais qui conduit vers une galère. Alors que le sentier des justes, le sentier de Dieu, de ce que Dieu a pour toi, ça peut avoir l'air terrifiant aujourd'hui, ça peut être sombre aujourd'hui, mais prépare-toi, le ciel bleu et le soleil arrivent. Et je veux appeler des gens ce matin à prendre une décision, à dire, je veux placer un fondement dans ma vie aujourd'hui et je veux choisir de prendre le sentier des justes. Il y a environ 2-3 ans, au moins, je suis allé prêcher en Belgique et après, on a fait une soirée dans une église et après, le pasteur m'a invité dans un restaurant. Et là, on est en voiture, on se gare devant le restaurant et quand j'ai vu la bâtisse, l'immeuble, la façade de l'immeuble, je me suis dit, mais c'est quoi cette affaire-là? Je me dis, ça ne peut pas être ça. C'était vraiment pas beau, mais vraiment repoussant. C'était vraiment pas beau. Et là, je me dis, quand même, on va juste une fois au restaurant, il choisit ce restaurant-là. En fait, ça se passe dans ma tête. Lui, il ne sait pas que ça se passe dans ma tête. Et là, tout à coup, on ouvre la porte pour entrer. Et quand on rentre, tout à coup, je vois un jardin. C'était comme un jardin intérieur. Il y avait des fleurs, il y avait une fontaine d'eau. Je dis, wow, c'est plus pareil comme en avant. Et là, plus on avance, on ouvre une autre porte et là, on est rentré dans un restaurant magnifique. C'était incroyable tout ça. Et donc, ça a commencé par quelque chose de pas attirant, mais plus on avançait, plus c'était glorieux. Eh bien, j'aimerais annoncer à quelqu'un ce matin, c'est exactement ce que Dieu va faire dans ta vie si tu choisis de prendre le sentier des justes. Amen. La sagesse. Je regardais les vidéos ce matin, mon cœur se réjouissait. Je les vois régulièrement. Mais là, New Life Church et tout ça qui prend place. Et une des choses que pour ceux qui ne connaissent pas ou connaissent peu le pasteur Claude Houde, qui est le fondateur de l'Église Nouvelle Vie, eh bien, une des choses qui est particulière à pasteur Claude Houde, c'est un homme d'une très grande sagesse. Je l'ai vu au fil des ans, au fil des défis, des années, des décennies même. Et c'est un homme qui place la sagesse en priorité. Quand il construit sur la sagesse. Et je regarde l'Église Nouvelle Vie, qui devrait normalement, après plusieurs années, comme parfois ça arrive, devrait être une église qui s'essouffle. Mais ce n'est pas une église qui s'essouffle, c'est l'église qui nous essouffle. C'était pas dans mes notes, mais c'est pas mauvais cette phrase-là. Et en fait, je regarde ça, je me dis, et là, il y a des campus, tout ça. Moi, c'est incroyable. Ce matin, j'étais sur la route, je m'en vais prêcher à Drummondville. Après ça, je vais aller prêcher à Châteauguay. Après ça, je vais aller prêcher à La Prairie. Après ça, je vais aller prêcher à Longueuil. C'est extraordinaire. C'est de gloire en gloire, année après année. Et il y a eu, dans l'Église de la vie, des attaques, des combats incroyables. Il y a eu des périodes d'épreuves, tout ça. Mais malgré toutes ces choses, parce que c'est construit sur la sagesse et le sentier des justes, eh bien, la lumière est resplendissante de plus en plus. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire dans ta vie. Quelqu'un dit amen ce matin. Amen. Premier fondement. Prenez la route qui conduit vers le meilleur. Dis à ton voisin, Dieu a encore meilleur pour toi. Deuxième fondement, choisissez vos frontières. J'annonce à quelqu'un ce matin, c'est vous qui choisissez les frontières de votre futur. Les frontières dans lesquelles tu seras dans ton futur, c'est toi qui les choisis aujourd'hui. Aujourd'hui, dans les frontières de mon ministère, j'ai le privilège de prêcher ici à Drummondville. Il y a des choses qui auraient pu faire en sorte que je ne puisse pas prêcher ici, que je n'ai pas l'accès à prêcher ici, mais ça fait partie des frontières, grand privilège de mon ministère. Et ce n'est pas à cause de ce que j'ai décidé ce matin. C'est à cause de frontières que j'ai décidées dans le passé. J'ai eu la chance, et là, c'est que ça va être cruel de parler de ça ce matin, mais j'ai eu la chance d'aller 3 fois à Saint-Martin dans les Caraïbes pour servir Jésus. Il faut se soumettre à l'appel. Où tu voudras, j'irai. Saint-Martin, OK. Et c'est vraiment des endroits formidables de la terre. Et donc, j'ai même fait le tour de l'île. C'est une petite île. J'ai même fait le tour de l'île à vélo. Et pendant que j'étais là-bas, les pasteurs, tout ça, ils m'ont parlé du traité de Concordia. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est que le sud de l'île de Saint-Martin, c'est un territoire français, et le nord de l'île, c'est les Pays-Bas, la Hollande. Dans la même île, il y a comme 2 pays. Et on m'expliquait que le traité de Concordia, je ne sais pas si vraiment ça s'est passé comme ça, mais apparemment qu'à l'époque, je ne me souviens plus c'est quelle année, mais à l'époque, ils ont dit, la France, les Hollandais, choisissez vos frontières, choisissez la partie de l'île que vous voulez. Et ils sont partis, et ils ont dit, moi je prends cette partie-là, toi tu prends cette partie-là. C'était la belle époque, n'est-ce pas? Mais en fait, l'idée, c'est que je réfléchissais là-dessus, je me disais, c'est quand même génial, ils ont pu choisir les frontières. Ils ont pu choisir la portion qu'ils voulaient avoir. Moi, je prends le sud, toi, tu prends le nord. Et pourquoi je vous partage ceci ce matin? C'est pour vous lire le Proverbe, chapitre 4. On est dans les Proverbes aujourd'hui. Proverbe, chapitre 4, verset 23, il nous dit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui, de ton cœur, viennent les sources de la vie. » Le mot « source » en hébreu parle de frontière. « Garde ton cœur plus que tout, parce que de ton cœur viennent les frontières de ta vie. » Et donc, ça, c'est un des passages très importants à mettre comme fondement dans votre vie. Moi, ce qui m'intéresse de l'Église Nouvelle Vie de Drummondville, ce n'est pas particulièrement aujourd'hui. Je me réjouis pour aujourd'hui. Mais ce qui m'intéresse de l'Église Drummondville, c'est les frontières de votre futur. Parce que à quoi ça sert d'avoir une superbe église aujourd'hui avec deux célébrations? Si dans 3 ans, on est tout en chicane, dans 4 ans, ça, on est divisé, puis dans 5 ans, on est la risée de la ville. À quoi ça sert aujourd'hui? Ce qui m'intéresse, c'est de placer des fondements pour qu'on soit dans la gloire dans le futur, qu'on ait un beau futur et que les frontières soient élargies et soient les frontières qu'on veut et non celles que le diable dans lesquelles veut nous amener. Et c'est la même chose pour votre vie et pour ma vie. Ce que je protège, ce que j'empêche d'accéder dans mon cœur, parce que c'est un fondement de sagesse de protéger mon cœur, va déterminer mes frontières futures. J'ai eu la chance à quelques reprises dans le ministère d'aller faire le ministère en prison avec des prisonniers. Et ça m'a vraiment secoué, mais une fois en particulier, j'ai été vraiment touché. J'ai été invité à participer à un événement de Noël. C'était une prison à sécurité maximum. Et les prisonniers qui sont là pour 15 ans, 20 ans, 25 ans, et des crimes très, très graves. Mais ceux qui avaient un bon comportement depuis une bonne période de temps pouvaient, ils avaient organisé dans une salle un repas de Noël avec ils pouvaient avoir leurs femmes, leurs enfants, pouvaient être là, tout ça. Et moi, j'étais là pour partager quelque chose, tout ça. Et ça durait comme 2 heures, mais c'était vraiment spécial parce qu'on était dans une salle et il y avait comme des galeries sur les côtés, balcons, et il y avait des gardes armés qui étaient là, tout ça, des caméras partout, il y avait des gardiens partout, c'était vraiment spécial. Et on a fait la fête, tout ça, on mangeait, on a célébré, chanté des chants de Noël, tout ça. Mais il y a eu un moment où, dans un micro, il y a un gardien qui a dit, les visites sont maintenant terminées, on va demander à tout le monde de partir. Il y a un down qui est tombé, là, incroyable. C'était quelques jours avant Noël. Ça ne s'explique pas avec des mots, la tristesse qui est tombée. Parce que les gars sont là pour des années. Et là, les enfants, ils prenaient leurs enfants, les époux, ça pleurait, tout ça, ça sortait, tout ça. Et moi, je me suis dit, s'il y a une place dans ma vie où je ne veux pas être, c'est ici. Je ne veux jamais être dans une place comme ça. Ça serait catastrophe. Qu'est-ce que je dois faire pour jamais me retrouver dans une prison comme ça? Et à chaque fois que je vais en prison, quand je sors, je sais pas que... Je prends de l'air, c'est quelque chose de... tout est beau, je veux dire, la tempête, je m'en fiche qu'une tempête de neige, puis j'ai pas de manteau, tout est glorieux, la vie est belle, je suis libre. Mais quand tu te retrouves en prison pour des crimes graves, vous savez, les plus grosses sentences pour meurtre, par exemple, c'est ce qu'on appelle les meurtres prémédités. Un meurtre prémédité, ça veut dire que tu as eu le temps d'y penser. Tu l'as prémédité, puis tu as posé un geste, sentence maximale. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de grave que tu as fait, que tu as eu le temps de garder dans ton cœur. Et les frontières de notre futur sont déterminées par ce que nous gardons dans notre cœur. Et donc, je peux choisir aujourd'hui, c'est une décision que je peux prendre ce matin en fondement, je peux choisir ce que je ne donne pas accès à mon cœur et ce à quoi je donne accès à mon cœur. Donc, un des conseils que je dis souvent à des gens, je dis, si tu continues à tolérer ces choses dans ton cœur, ce qui vient dans le futur ne sera pas beau. Tu sais déjà le futur. Ça ne sera pas beau. Tu vas te retrouver dans des frontières que tu n'aimeras pas et ça va avoir eu son origine dans ce qui était dans ton cœur. Si, par exemple, tu choisis, c'est le message la semaine prochaine, il faut absolument que vous soyez là. Si tu choisis aujourd'hui de pardonner dans ton cœur, eh bien, tu choisis la liberté dans ton futur. Amen. Si tu choisis aujourd'hui la vengeance et la rancune, tu choisis aujourd'hui de créer ta propre prison dans le futur. Donc, pour triompher dans la vie, pour triompher dans le futur, pour avoir des frontières qu'on aime, des frontières qu'on rêve d'avoir, des frontières de vie, des frontières de possibilités, des frontières de liberté, des frontières d'influence, des frontières d'amour, des frontières de joie, des frontières de bénédiction, eh bien, je choisis aujourd'hui de garder mon cœur plus que toute autre chose et de ne pas permettre à certaines choses d'habiter dans mon cœur. Ce matin, on nettoie le cœur. Ce matin, on libère le cœur. Ce matin, on guérit le cœur. Ce matin, on se libère de ces choses qui nous empoisonnent, qui peuvent nous détruire et nous mettre dans des frontières pourries dans le futur. Je veux des belles frontières pour votre futur. Amen. Choisissez, fondement numéro 2, choisissez vos frontières. Fondement numéro 3, ça va être bon. Ça va être bon. C'est étudier comment Dieu fonctionne. Ça, là, je vous assure, s'il y a au moins une personne, pasteur, s'il y a au moins une personne ce matin qui capte ça, puis qui dit, moi, je m'approprie ce fondement dans ma vie, vous allez venir me voir dans le futur avec des remerciements incroyables, parce que c'est génial. Apprendre, étudier comment Dieu fonctionne. Proverbes chapitre 8, verset 14, « Le conseil et le succès m'appartiennent. » Je suis l'intelligence et la force est à moi. Donc, quand tu étudies comment Dieu fonctionne, Dieu, c'est le conseil, Dieu, c'est le succès, Dieu, c'est l'intelligence et Dieu, c'est la force. Et une des choses qui me frappe, c'est qu'il y a des gens qui vont à l'église pendant des années, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, et qui n'ont pas, ils ne se sont pas arrêtés un instant à essayer de comprendre comment Dieu fonctionne. Parce que quand tu apprends comment Dieu fonctionne, tout ce qui arrive, tu ne le vois plus de la même façon. Quand il arrive un combat, quand il arrive un conflit, quand il arrive une chose bizarre, quand il arrive dans ta vie, un carrefour, tout ça, tu dis, attends, ça là, comment Dieu fonctionne? Et ça te révèle qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui. Par exemple, ça fonctionne de la même façon avec chaque être humain. Ce qui est fascinant, quand vous rencontrez des nouvelles personnes dans votre vie, découvrez comment fonctionne la personne. Par exemple, Luc Dumont, là je ne vous dévoilerai pas tout ce matin, ça serait trop long, mais si tu dis, moi j'aimerais ça rejoindre Luc, j'aimerais ça, il faut que j'y parle. La pire chose que tu peux faire, c'est essayer de m'appeler. Sérieux, même si tu es mon ami proche, que j'aime de tout mon cœur, si tu essaies de m'appeler, tes chances de m'avoir sont faibles. Ma sonnerie est coupée 24/7. Pour moi, recevoir un appel, ça me dérange. Pourquoi? Parce que c'est jamais un bon... Imagine quelqu'un qui m'appelle en ce moment. Combien sont d'accord avec moi que je prends mon appel en ce moment, vous dites, hey, c'est un mauvais timing. Mais c'est tout le temps un mauvais timing. Je suis toujours en train de faire quelque chose d'important. Pour moi. Donc, quelqu'un qui essaie de m'appeler, erreur. Donc, ceux qui savent comment je fonctionne, savent que si tu me textes, t'es sûr. Ou si tu m'envoies un email, encore mieux. Tu es sûr que je te réponds dans la journée, dans les heures qui suivent, même parfois très rapidement, parce que là, je vais avoir à un moment donné une demi-heure. Peut-être qu'en ce moment, je prêche, mais tantôt, entre les deux réunions, je vais être en pause. Là, je peux te répondre. Mais si tu m'appelles, je ne réponds pas. Donc, ça, c'est la façon que moi, je fonctionne. Donc, ceux qui ont compris comment je fonctionne ont beaucoup plus facile accès à moi, même si la personne, c'est quelqu'un que je connais moins, mais elle a compris comment je fonctionne. Pasteur Claude Doud. Combien veut savoir comment fonctionne Pasteur Claude? Je le connais depuis 30 ans, Pasteur Claude. Pasteur Claude, je ne vous dirai pas tout non plus, ça serait trop long ce matin. Mais Pasteur Claude, si tu as accès, par exemple, à le rejoindre, tu as son téléphone, que je ne donnerai pas à tout le monde ce matin, mais si tu as son téléphone ou son email, la pire chose, si tu veux être sûr qu'il ne peut pas le rejoindre, rejoins-le, essaie de le rejoindre entre 9h le matin et 15h l'après-midi. Tu es sûr à 99%, même s'il t'aide de toutes ses forces, à moins que ce soit une catastrophe internationale, il ne va pas te rejoindre. Mais si tu lui écris très tôt le matin, par exemple, moi souvent, dimanche matin à 6h, « Pasteur Claude, je prie pour toi aujourd'hui, je m'en vais prêcher à Drummondville, ça va être une journée incroyable, tout ça. » 15 minutes plus tard, « Moi aussi, je prie pour toi, Luc, lâche pas, ça va être super. » Mais si je lui écris à 9h, oublie ça, c'est fini. Et encore mieux, en fin d'après-midi, c'est tout le temps là qu'il retourne ses appels. Pourquoi? Parce qu'il a fait ses rendez-vous, tout ça. Là, il y a une petite demi-heure, une heure avant de partir, et là, il répond à ses messages. Une autre chose, Pasteur Seb, un jour peut-être tu me remercieras pour ceci. Tu as quelque chose d'important à lui demander. Tu veux acheter un nouvel écran, quelque chose pour l'église de Drummondville? Tu as quelque chose de vraiment important à lui demander? Ne fais jamais l'erreur de lui demander le vendredi après-midi qui précède un méga week-end à haute pression. Le meilleur moment, t'entends dire qu'ils ont eu le dimanche du siècle à Nouvelle Vie, Longueuil, un dimanche, ils ont eu des victoires, ils ont baptisé 300 personnes, il y a eu le réveil, il y a un mort qui est ressuscité, peu importe, il s'est passé des choses incroyables. Le lundi matin, tu lui écris, Pasteur Claude, j'ai entendu ce qui s'est passé hier, c'est incroyable. Waouh, on est béni. On voudrait continuer dans le même flow, nous aussi, à Drummondville, on a besoin d'un écran. Pasteur Seb, sois béni. Donc ça, en fait, c'est juste d'apprendre comment quelqu'un fonctionne. Eh bien, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est exactement la même chose avec Dieu. Dieu, dans le livre des Proverbes, nous explique pendant 31 chapitres comment Dieu fonctionne. Par exemple, Dieu résiste aux orgueilleux, combat les orgueilleux et il favorise les humbles. Donc quand tu comprends comment Dieu fonctionne, tu sais ça. Tu sais exactement comment il fonctionne. Ensuite, par exemple, Dieu bénit l'obéissance. Dieu bénit ce qu'il bénit. Ah, c'est trop bon. Dieu bénit ce qu'il bénit. Donc, ça veut dire que si dans ta vie, tu fais ce que Dieu bénit, ça va être béni. Dieu fait toutes choses merveilleuses en son. Donc, si tu fais des choses dans le bon temps, ça marche. Dieu multiplie ce qui est semé. Dieu favorise l'humilité et la liste continue. Donc, le conseil et le succès lui appartiennent. Donc, je vais à partir d'aujourd'hui, comme troisième fondement dans ma vie, je vais commencer à étudier comment Dieu fonctionne. Et je vais commencer à opérer, bâtir ma vie, construire mon ministère, mon église, ma famille, tout ça, avec les paramètres de comment Dieu fonctionne. Et quand tu fonctionnes comment Dieu fonctionne, t'es à côté d'autres personnes, mais toi, ça marche plus. Il y en a un qui essaie d'appeler Luc Dumont, l'autre, il texte, lui, ça marche plus. Ah, oh, quelqu'un dit amen ce matin. Étudier comment Dieu fonctionne. Est-ce que je peux continuer? Fondement numéro 4, la meilleure façon de construire. Tout le monde ici est appelé à construire. On est appelé à construire quelque chose. Écoutez bien, Proverbe 11:11, c'est de la bombe. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Wow! En fait, j'en ai visité des églises dans ma vie, j'ai arrêté de compter, mais quand je visite une église ou une organisation, eh bien, la première chose que je regarde après le leader, je regarde les gens autour du leader. Tout le temps. En fait, c'est devenu un réflexe, je suis désolé de l'équipe, là, mais je vous ai regardé. Et en fait, je sais le futur de l'organisation ou de l'église où je vais en regardant l'entourage du leader ou des leaders. Je sais le futur. Pourquoi? Parce que la ville s'élève. La ville s'élève, l'église s'élève, la business s'élève par la bénédiction des hommes droits. Donc, si on est entouré de gens qui ne sont pas droits et qui n'ont pas de bénédiction. Donc, il y a plusieurs années de ça, je me suis associé avec un couple extraordinaire, ultra sage et ultra béni. Quand je les ai rencontrés, il y avait déjà une méga bénédiction sur leur vie à plein niveau. Et je me suis associé pour construire exponentiel, notre projet exponentiel que Dieu nous a demandé de construire, on l'a construit ensemble. Je vous dis, à partir du moment où je me suis associé avec ce couple-là, PAM! Il s'est passé plein de choses incroyables. Je suis la même personne, mais tout à coup, je bâtis la ville avec la bénédiction des hommes droits. Et là, tout à coup, c'est multiplié, comme j'aime le dire, c'est exponentialisé. Et c'est pour ça que c'est ultra important comme fondation pour bâtir une vie de triomphe pour chaque personne ici. Posez-vous la question, suis-je entouré d'hommes et de femmes droits qui ont une bénédiction sur leur vie? Tu veux t'associer avec moi? Y a-t-il une bénédiction sur ta vie? Je ne parle pas d'élitisme et de perfection, mais y a-t-il une bénédiction sur ta vie? Tu veux démarrer une business avec moi? Mais il n'y a rien, depuis 20 ans, c'est que de la faillite dans ta vie. Je suis désolé, on va attendre que ça aille mieux, après ça, on pourra discuter d'une association. Et je ne parle pas, encore une fois, d'être dans le jugement des gens, mais si en ce moment, écoutez bien ceci, si en ce moment, je ne suis pas entouré dans ma vie d'hommes et de femmes droits, d'hommes et de femmes qui ont une certaine bénédiction sur leur vie, c'est sûr que ça va mal tourner pour moi. Et c'est pour ça, en tant que leader, souvent dans les églises, j'ai vu qu'on bâtit parfois sur le talent, on bâtit sur ce qui est spectaculaire, on est attiré par ces choses-là. Mais y a-t-il, sur les personnes autour de nous, y a-t-il une bénédiction de Dieu? Y a-t-il la droiture? C'est ça qui bâtit. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Et en plus, il dit, elle est renversée par la bouche des méchants. Je suis pas trop âgé. C'est comme ça qu'on me décrit. Je suis encore pas trop âgé, mais plus âgé que j'étais. Je suis un modèle récent avec beaucoup de kilomètres. Mais j'ai vu beaucoup de choses. Et 100%, écoutez bien ceci, 100% des organisations, des églises, des entreprises que j'ai vues s'effondrer, c'était tout le temps connecté à la bouche des méchants. Je n'ai jamais vu, par exemple, on parlait des églises, je n'ai jamais vu une église s'effondrer que les 24 mois qui ont précédé, c'était juste des paroles de vie, des paroles d'encouragement, des paroles de bénédiction, des paroles d'unité avant. Non, les 24 mois qui ont précédé, c'était de la médisance, de la critique, des paroles dures, du jugement, toutes ces choses-là. Donc, c'est fort. La ville s'élève par la bénédiction des hommes justes et droits, et la ville s'effondre par la bouche des méchants. Donc, on peut bâtir, on peut détruire. Et c'est pour ça que quand je vais dans mes voyages, des fois, ça m'arrive de faire des week-ends et je suis très troublé. Après, je vais dans une église et parfois, je vais manger ou je passe du temps avec le pasteur, mais des fois, je vais aller avec le responsable de la louange, je vais aller avec d'autres personnes, le responsable du groupe des jeunes, d'autres personnes dans l'église. Et là, pendant tout le week-end, je me fais bombarder de critiques. « Ouais, ici, il n'y a pas de vision, c'est pas comme ça que je ferais ça. » Je sais le futur de l'église. Ce matin, j'appelle dans cette salle des hommes et des femmes à placer ce fondement. On va bâtir la ville avec la bénédiction des hommes droits et la bouche qui donne la vie. Amen. La meilleure façon de bâtir. Est-ce que je peux continuer encore ce matin? Fondement numéro 5. Là, ça va parler à personne, mais vous pourrez en parler à d'autres personnes de ce que vous avez entendu ici. Ça concerne personne ici dans cette salle. J'appelle ça « refuser l'entêtement ». Il n'y a aucun entêté ici. Je sais que ça va être comme 2 minutes que vous devez endurer, mais je le dis quand même. Refusez l'entêtement. Proverbe 12, 1. Celui qui aime la correction aime la science. Celui qui hait la réprimande est stupide. Ne vous regardez pas les uns les autres. Proverbe 29, verset 1. Un homme qui mérite d'être repris et qui raidit le coup sera brisé subitement et sans remède. Ouf. Ne me dites pas que ce n'est pas puissant, le livre des Proverbes. Et l'un des plus grands bloqueurs de triomphe, l'une des choses qui empêche le plus la gloire de Dieu dans la vie d'une personne, L'une des choses qui empêche le plus le ciel de s'ouvrir, l'une des choses qui empêche le plus la croissance, la vie, la plénitude, le bonheur, la vie en abondance, la vie de Dieu, c'est l'entêtement. Des gens qui ne peuvent pas être repris, des gens qui ont toujours raison, des gens qui ne veulent pas changer, des gens qui sont convaincus d'avoir raison sur tout, des gens qui sont complètement dans le champ, mais qui sont convaincus d'avoir raison. Comme je vous l'avais dit, ça ne concerne personne ici, mais ça existe. J'ai vu un reportage, j'ai fouillé pour essayer de le retrouver, mais le 18 mai 1980, dans l'ouest des États-Unis, dans l'État de Washington, il y a une montagne qui s'appelle le Mont Sainte-Hélène, qui est un volcan, et qui a fait éruption le 18 mai 1980, il a fait éruption. Des scientifiques sont venus et ont détecté, maintenant que la technologie, peuvent détecter à l'avance l'éruption potentielle d'un volcan, et donc ils ont fait évacuer la ville, tout ça. Mais il y avait un monsieur qui s'appelait Harry Truman, pas le président, mais c'était un monsieur qui s'appelle Harry Truman, qui avait un hôtel, le Mont Sainte-Hélène Lodge, au pied de la montagne, un monsieur assez âgé, qui a toujours vécu là. Alors ils ont dit, monsieur, vous devez absolument quitter, ça va exploser, il y a des gros risques, tout ça. Et le monsieur s'est fâché, puis a dit, non. Il dit, je vis au pied de cette montagne depuis toujours, elle ne va pas exploser. Donc, ils ont évacué la ville, ils ont insisté, il n'a pas voulu. Eh bien, le matin du 18 mai 1980, le volcan a explosé et la première place qui était ensevelie, c'est lui et son hôtel. Quelle histoire plate et pathétique. Mais combien de fois j'ai vu ça? Combien de fois j'ai personnellement, et ça c'est une des plus grandes frustrations des conseillers, combien de fois j'ai donné des conseils à des personnes? Non. Je reste. Ça ne va pas exploser, je reste. Combien de fois on entend la parole de Dieu qui nous confronte, on entend quelqu'un qui nous parle, non. Et après ça, ça tourne mal. Je l'ai fait moi-même. Dans ma vie, ça m'est déjà arrivé de dire non. Ça m'a tombé dessus. À partir d'aujourd'hui, j'appelle dans cette salle un esprit ouvert, un esprit enseignable, un esprit qui veut grandir, un esprit qui veut apprendre, un esprit qui accepte la correction, même si c'est parfois dur. Je veux grandir, je veux devenir, je veux être ce que Dieu appelle à devenir, je veux prendre possession, je veux pas être détruit, je veux pas tout gâcher, je veux pas manquer, je veux pas passer à côté, je veux triompher. Donc ce matin, je casse l'entêtement dans ma vie. Il y a tellement de belles choses qu'on pourrait vivre si on cessait d'être entêté. Que Dieu parle à quelqu'un ici dans cette salle, moi inclusivement, que Dieu nous parle ce matin, mais on ne veut pas faire partie des entêtés. Quelqu'un dit amen. Refuser l'entêtement. Fondement numéro 6, j'achève d'ici une heure ou deux, je devrais avoir terminé. Je suis entêté, je résiste. OK, rapidement. Saisissez le miracle qui est devant vous. Fondement numéro 6, saisissez le miracle qui est devant vous. Devant toi, il y a un miracle. Chaque personne ici a un miracle devant lui ou devant elle. Il dit, on va lire un des deux passages, Proverbe 27, 18, un de mes versets préférés dans toute la Bible. « Celui qui soigne un figuier en mangera le fruit. » Ça, ce passage a changé ma vie. Je vous le dis, un seul verset de la sagesse de Dieu a changé complètement ma vie, mon ministère. Et en fait, l'idée, c'est que le miracle est devant nous. Le miracle n'est pas à l'autre bout de la terre. Même si Dieu t'appelle à l'autre bout de la terre, le miracle est devant toi pour t'amener à l'autre bout de la terre. Je lisais dans la biographie de Billy Graham, l'un des évangélistes qui a atteint le plus de monde sur la terre, avant l'Internet, il a fait des campagnes d'évangélisation gigantesques. Et il raconte dans sa biographie que quand il a commencé, il faisait 2 heures de route, il était en Caroline du Nord, je crois, il faisait 2 heures de route presque à chaque semaine pour aller prêcher à un groupe de femmes dans une cuisine. 10-15 femmes dans une cuisine, il faisait 2 heures de route pour aller leur prêcher, 2 heures de route pour revenir. Et depuis ce temps-là, je dis, la route vers le stade passe par la cuisine. Il savait, il réalisait peut-être pas, il était jeune dans son ministère, mais alors qu'il faisait son 2 heures de route pour aller prêcher un petit groupe de femmes dans une cuisine, il était en train de nourrir son figuier. Il est en train de prendre soin du figuier qui va donner un fruit international, mondial, dans l'histoire. Billy Graham fait partie des évangélistes qui ont marqué l'histoire. Il a parlé à des présidents, conseillers des présidents, tout ça. Ça commence par la route de la cuisine. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un ce matin, mais chaque personne ici dans cette salle, il y a un miracle. Il y a un miracle pour tes entreprises, il y a un miracle pour ta famille, il y a un miracle pour tes finances, il y a un miracle pour tes finances, il y a un miracle pour tes finances, il y a un miracle pour ton ministère, il y a un miracle pour ta vie, il y a un miracle pour tes études. Mais au lieu de regarder là-bas, prends soin du figuier qui est là devant toi. C'est devant toi. Ton futur ministère, il est devant toi aujourd'hui. Le problème, c'est que souvent, une des étudiées comment Dieu fonctionne, c'est que Dieu souvent active les choses dans ce qui n'est pas spectaculaire. Laisse tes filets et suis-moi. Pendant que Élisée est en train de labourer dans le fumier, Élie, le prophète des nations, arrive, il lance son manteau sur lui, c'est toi mon successeur. C'est toujours des contextes qui ne sont pas spectaculaires. Nous, on cherche la grosse affaire. Le miracle, wow! Alors que ça arrive la plupart du temps dans l'ordinaire, dans la cuisine. Une simple chanson peut devenir un ministère international. Une simple âme sauvée peut devenir un ministère d'évangélisation. Un client peut devenir une entreprise. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Starbucks Café? Howard Schultz, le fondateur de Starbucks. Au départ, Starbucks était un petit magasin de café à Seattle. Il vendait du café, pas du café à boire, du café en sachet. On l'envoie dans une conférence en Italie. À l'époque, aux États-Unis, le café, c'était pourri. C'était du café vraiment pas bon. Lui, il va dans une conférence en Italie. Et là, il voit les gens assis sur les terrasses boire des expressos. Wow, tout ça. Assis toute l'après-midi, boire des expressos. Et le café est une science. Il dit, hey, qu'est-ce qui arriverait si je ferais la même chose aux États-Unis? Il a fait la même chose, c'est devenu Starbucks. Partout dans le monde aujourd'hui. Le miracle est devant toi. Juste quelque chose qui est devant toi peut activer quelque chose de phénoménal. Quelqu'un dit amen. Amen. Les musiciens vont s'approcher. Je vais terminer avec le septième fondement. Le septième fondement pour le triomphe, c'est ceci. Confessez vos péchés. Je savais qu'il n'y aurait pas un éclat de amen, mais c'est la vérité quand même. Écoutez bien ceci, c'est très puissant. On va terminer avec ça. Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ça, c'est un fondement pour ouvrir la voie de ton futur. Nos péchés nous gardent prisonniers. Nos péchés s'amplifient. Nos péchés détruisent. Nos péchés gâchent le plan de Dieu. Nous éloignent du plan de Dieu, nous font dévier. Nos péchés nous éloignent de tout ce que Dieu a prévu pour nous. Mais l'abandon des péchés, la confession des péchés et les délaisser ouvrent la voie de la vie. Et c'est pour ça que Jésus est venu. Il est venu pour nous libérer de nos péchés. Et ce matin, j'avais plein de contenu par rapport à ça, mais je vais juste terminer avec ceci. Dans ma vie, j'ai arrêté de compter le nombre de dimanche matin comme ce matin que j'ai fait, j'en ai fait plein. Mais il y en a certains que j'oublierai jamais. Il y en a un que j'oublierai jamais. C'est un des moments forts que j'ai vu, mes yeux ont vu dans une église. Et c'était tellement dans un truc simple que je ne m'attendais pas du tout. Le pasteur me dit avant de prêcher, il dit « Luc, quand tu vas finir ton message, fais pas d'appel, pars pas de chant, donne-moi le micro, j'ai quelque chose à annoncer. » Et donc, je prêche mon message, je me demandais un peu c'était quoi, et là, je finis mon message, le pasteur monte sur l'estrade. Et il dit, je vais demander à monsieur un tel, un de nos anciens de l'église, de venir sur l'estrade. Et là, j'ai vu qu'il y avait comme, tu as senti une émotion dans la salle. Et là, le monsieur, il est un peu nerveux, il monte sur l'estrade, il prend le micro, puis avant de parler, il s'effondre en larmes. Et là, il y avait un silence dans la salle, c'était vraiment spécial. Et il dit, le monsieur dit, j'ai tout gâché. Il dit, j'ai tout gâché, j'étais un ancien dans cette église. Et tout a commencé quand j'ai pris 20 $ et je l'ai mis dans la machine à sous au casino. Je ne savais pas que ce jour-là, j'ouvrais une porte dans laquelle j'avais aucune idée. J'ai tout perdu. J'ai perdu mon emploi. J'ai perdu ma maison. Je me sens endetté, comme vous ne pouvez pas imaginer. J'ai fraudé à cause de ça. J'ai détruit ma famille, tout ça. Et il dit ce matin, je veux demander pardon à mon épouse, à mes enfants. Et là, ça pleurait. Et à vous, l'Église, j'ai passé à côté. Mais je veux vous demander pardon pour ce que j'ai fait. Et si le Seigneur daigne me pardonner, je vais recommencer à suivre Jésus. Et là, c'est indescriptible ce qui se passait dans la salle. Et là, le pasteur, spontanément, s'est levé, puis il dit, viens avec moi. Et là, il est descendu en avant. C'est une église. Après, il y avait peut-être une foule comme ici ce matin. Et pendant l'heure, moi, je suis resté là, je me suis assis, je regardais. Pendant l'heure que suivi, les gens ont fait une ligne. Puis tout le monde sont passés un après l'autre. Ils l'ont pris dans leurs bras. Il y en a qui ont pris avec lui. Des gens pleuraient, des jeunes, moins jeunes. Un gros pourcentage de l'Église, ils ont tous passé. Ils l'ont pris dans ses bras. Et à la fin, j'étais là, avec le pasteur, le monsieur a dit, je ne vais pas rester longtemps, mais il a dit, j'aurais jamais pensé que c'était pour tourner comme ça. Il dit, waouh, Dieu est grand. Et il y a quelque chose qui a été cassé dans la vie de cet homme-là ce jour-là. Un joug, une destruction qui a été cassée. Et cet homme est entré dans la vie. Peu importe où il était. Et donc, un des fondements ce matin qui va amener le triomphe dans notre vie, c'est de confesser nos péchés. Quelqu'un dit amen. Amen. Et le temps nous manque ce matin, mais j'aimerais qu'on puisse se lever ensemble. On va terminer avec ce chant, je bâtirai ma vie. Mais avant qu'on chante, j'aimerais qu'on puisse fermer les yeux pendant un instant. Si vous êtes ici dans cette salle, peu importe votre histoire, peu importe que vous soyez un croyant qui vient à l'Église depuis des années ou que vous soyez quelqu'un qui soit ici pour la première fois, si vous dites, Luc, devant Dieu ce matin, je veux abandonner mes péchés. Je veux délaisser. Et c'est entre vous et Dieu, ce que vous voulez délaisser, c'est entre vous et Dieu, c'est différent pour chaque personne. Mais si vous dites ce matin, cette chose dans ma vie, elle ne va pas me détruire. Ce matin, je neutralise le péché dans ma vie pour ouvrir mon cœur à la grâce de Jésus-Christ. Qui va te pardonner, qui va te relancer, qui va trouver une voie nouvelle de triomphe. Alors, toutes les personnes, ce matin, nos yeux sont fermés, c'est très personnel. Vous dites, ce matin, je prends la décision, je confesse à Dieu mes péchés, je renonce à mes péchés, je délaisse mes péchés, il faut que ça change. À partir d'aujourd'hui, la mort va être remplacée par la vie. Si c'est toi, ce matin, lève tes mains, ta main devant le Seigneur, on va prier ensemble ce matin. Prions ensemble en disant « Seigneur Jésus ». Priez avec moi en disant « Seigneur Jésus, je reconnais ce matin tous mes péchés. Je te demande pardon. J'ai besoin de toi. Je décide ce matin de changer de voie, de suivre ta voie. Je prends la décision ce matin de bâtir mon avenir sur ta fondation, sur ta miséricorde, sur ta grâce infinie. Et je déclare au nom de Jésus, grâce à toi, Seigneur, mes péchés sont pardonnés. Ma vie est transformée. Je suis libéré. Et à partir d'aujourd'hui, je vais bâtir sur les fondations. Et au nom de Jésus, je déclare sur ma vie le triomphe aujourd'hui. Au nom de Jésus, amen. Et on acclame le roi de gloire ce matin.